Et avant de lire la Bible, vous avez déjà préparé l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, on va lire la suite. Nous prions. On rentre, Seigneur, encore un peu plus dans le mystère de ta présence. Et on vient ouvrir les Écritures saintes, inspirées et conduites par ton esprit. Que ton esprit soit à l'œuvre en moi qui prêche cette parole, que ton esprit soit à l'œuvre dans ton peuple qui la reçoit, et que Seigneur, ce qui vient de toi résonne clairement et fermement, et ce qui vient que de l'homme, Seigneur, passe comme le vent. Amen. Nous reprenons la lecture de l'épître de Paul aux Romains. Un passage pas très simple aujourd'hui. Alors, je vais vous rappeler un peu ce qui a été vu, pour ceux qui nous rejoignent, les semaines précédentes. On a vu que Paul veut clairement faire comprendre à ses lecteurs, ses auditeurs quelque part, que voilà, quand Jésus-Christ est venu accomplir son œuvre à la croix, ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, qui sont convertis, changent radicalement de régime. Il avait pris trois tableaux pour essayer de faire comprendre comment ça se faisait que les chrétiens avaient changé de régime, de statut, de situation. Le premier tableau, c'était celui d'une plante greffée. Voilà. Vous étiez un arbre sauvage quelque part, et puis vous avez été coupé et greffé sur le pied de vigne, le tronc, qui est Jésus-Christ. Et donc il y a une nouvelle sève qui coule en vous, et vous portez un fruit d'une autre qualité. Voilà. Je ne connais pas grand-chose en greffe, mais les botanistes ou les horticulteurs sauront peut-être mieux expliquer ça que moi, mais Christ est le porte-greffe, et nous sommes des greffons qui sommes plantés en lui, et donc il y a une nouvelle nature qui coule en nous, qui nous rend très différents de l'ancienne nature. La deuxième image que Paul prend, c'est celle d'un esclave. Alors, au temps de Paul, chez les Romains, ça parle beaucoup. Rome, c'est 20 à 30% d'esclaves quand même, à l'époque de l'apôtre Paul. Pour nous, ça nous parle forcément moins, mais un esclave qui travaillait pour une maisonnée et qui a été racheté de cette maisonnée et qui a, par une autre maisonnée. Et donc, il travaille maintenant pour une autre maisonnée. À quoi lui servirait-il de continuer à faire le travail de l'ancienne maisonnée? Il a changé de statut, il a changé de maître, changé de maison. Il est appelé à d'autres fonctions maintenant. Le troisième exemple que Paul prend, c'est celui d'une épouse dont le mari viendrait à décéder. Et il interroge, ne serait-elle pas libre de se remarier avec un autre homme? Est-elle encore tenue de vivre pour son premier mari alors que celui-ci n'est plus là? Il prend cet exemple de la femme parce que, à l'époque, seuls les hommes pouvaient enclencher un divorce. Les femmes ne pouvaient pas divorcer d'elles-mêmes dans la société juive. Donc trois exemples où en fait, est-ce que je peux changer ma nature tout seul? Non, je ne peux pas. Il faut que Dieu le fasse. Est-ce que je peux changer de maître si je suis un esclave? Non, je ne peux pas. Il faut que je sois racheté par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une femme peut divorcer de son mari quand elle le veut pour se remarier? Non, elle ne peut pas. Il faudrait que son mari décède pour qu'elle soit libérée. Et par tous ces exemples, Paul veut nous dire, vous n'êtes plus tenu d'obéir au péché parce qu'il y a une nouvelle réalité qui a pris forme en vous et qui vous rend capable de ne plus le faire. Vous avez la capacité de choisir que vous n'aviez pas avant. Voilà. Et dans cette réflexion que Paul nous partage, il soulève un point qui est très intriguant, mais fondamental à comprendre pour nous les chrétiens. Il dit que la manière dont Christ nous a libérés du péché, c'est en nous libérant de la loi. Et ce qu'il explique, c'est que la loi, en fait, même si elle est bonne, elle a cette puissance, cette capacité à exciter, à attiser le péché en nous. Donc je lis à partir du verset 7, du chapitre 7 de l'épître de Paul aux Romains. « vais lire dans la Nouvelle Français Courant pour que ce soit clair. Romains 7, verset 7. Que nous faut-il donc conclure ? La loi est-elle mauvaise ? Est-elle péché ? Non, certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de mauvais désirs. Car sans la loi, le péché est une chose morte. Autrefois, je vivais sans loi et j'étais vivant. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie en moi. Et moi, je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduire à la mort. Car le péché a saisi l'occasion. Il m'a trompé au moyen du commandement et par lui, il m'a tué. Ainsi, la loi en elle-même est bonne et sainte. Le commandement est juste et bon. Le commandement qui est bon est-il devenu une cause de mort pour moi ? Non, certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Et il a fait apparaître ainsi sa véritable réalité de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. En effet, nous savons que la loi, elle est spirituelle. Mais moi, je suis un être faible et vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Et si je fais précisément ce que je ne veux pas, ben je reconnais par là que la loi est bonne. C'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non pas la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Et donc je découvre ce principe. Moi, je veux faire le bien, mais je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? Ben, remercions Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Bref, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence. Mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Compliqué, hein ? Y a-t-il en nous tous une part sombre, une part de ténèbres ? Une part obscure. Y a-t-il en nous tous une capacité à faire le mal ? Je me rappelle de cette histoire marquante suite aux attentats du Bataclan. Une des victimes est témoin de la scène avait été un illustrateur de bande dessinée. Et peut-être pour se soigner, pour réussir à dépasser ce traumatisme, il avait fait une bande dessinée où il relatait tout l'épisode de cette attaque terroriste au Bataclan. Et au moment où il devait dessiner les terroristes, il a dit « j'ai pas pu leur faire des visages humains, je leur ai fait des visages de cochons. Je ne pouvais pas les dessiner comme des humains. » Tout au cours de notre histoire, à plein d'occasions comme ça, nous sommes parfois confrontés à des personnes qui ont commis des choses tellement horribles, tellement indignes, d'une telle violence, que quelque part, pour le supporter, nous devons les déclasser de l'humanité. Vous savez, en France, il y a eu la question de la perte de la citoyenneté. Est-ce qu'on peut perdre sa citoyenneté française, dans certains cas, perte de nationalité? Et là, c'est une perte d'humanité. Et certains monstres pour nous, d'ailleurs on dit monstres, on a besoin, peut-être pour nous rassurer nous-mêmes, de les déclasser de l'humanité. De nous dire, eux, ils ont franchi un cap qui fait qu'ils ne sont plus comme nous. Et comme cet illustrateur, on leur dessine des têtes de cochon pour ne pas les représenter comme des humains. Pourtant, à notre grande rame, ils sont des humains. Pleinement. Comme nous. Et ce qui nous choque, dans le fait de voir ce dont l'humanité est capable, c'est la peur de se dire, est-ce que moi aussi, j'en serais capable? Paul révèle que dans le cœur de chaque être humain, il y a ce combat entre le bien et le mal. Et Paul va plus loin puisqu'il révèle qu'un combat similaire se joue aussi dans le cœur du chrétien. Pourquoi, dit-il, parce que nous sommes tous nés de Adam et donc héritiers du péché dans notre chair. Et ce péché saisit toute forme de loi, de règles, de commandements, de principes pour susciter en nous toutes sortes de désirs mauvais, nous dit le texte. Paul lui-même dit, autrefois, quand je ne comprenais pas le commandement, quand je n'avais pas compris la loi, bon, ça va, ma vie était tranquille. Mais aussitôt que j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire que de convoiter, alors je me suis rendu compte de l'abîme qu'il y avait dans mon corps, dans mon cœur, et je me suis senti comme mort. Pourtant, l'apôtre Paul était un religieux parmi les religieux. L'apôtre Paul était un super champion des règles et de la loi et de l'obéissance. Et en quoi ces règles et ces lois et ces obéissances, entre guillemets, à Dieu dans son judaïsme, l'ont transformé? Elles l'ont transformé en un homme capable de persécuter, de mettre à mort, de contempler une lapidation avec satisfaction. Parce que les règles et les lois, quand elles sont assénées à n'importe quel individu pécheur, vont produire en lui toutes sortes de désirs, de convoitises qui seront mauvaises. Est-ce que ça veut dire que la loi est bonne? Non. Ça veut dire que nous ne sommes pas une terre correcte pour recevoir une loi qui vient de Dieu. La loi est spirituelle et nous sommes charnels. Et tant que les choses sont ainsi, cette loi ne produit pas de bons effets en nous. Et Paul explique justement que, quand on parle de la loi dans ce texte, on parle vraiment de la loi des Juifs, des 10 commandements, du Deutéronome. Mais quelque part, ça peut s'appliquer à n'importe quel type de loi. Les interdits, en fait. La culpabilité ne marche pas. pour changer réellement en bien. Alors ça, nous sommes d'accord pour les hommes qui ne sont sans Christ. Maintenant, ce qui est plus intriguant, c'est de voir que Paul, c'est vrai que dans les versets 7 à 13, il parle au passé, autrefois, à l'époque où je ne comprenais pas, ou ceci ou cela. J'étais livré au péché. Et le péché produisait en moi toutes sortes de désirs mauvais. Et plus j'essayais d'obéir à des règles, plus ça allait mal. Maintenant, à partir du verset 14, il parle au présent. On sait que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être faible. Je sais bien qu'au-dedans de moi n'habite rien de bon. Il parle au présent. Donc on est en train de parler de qui ? Du Paul, apôtre de Jésus-Christ, champion de la foi. Et lui-même dit de lui, alors que peu d'entre nous se diront capables d'arriver à sa cheville en termes de consécration, en termes de spiritualité, en termes de vie de prière, en termes de ministère, on ne rivalise pas avec l'apôtre Paul, et lui dit, je ne suis pas capable de faire le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi ? Pour moi, c'est le cas. Malheureusement, il ne se passe pas une journée. Il ne se passe pas une journée sans qu'à un moment donné, je vais choisir de faire ce mal que je n'approuve pas dans mon esprit. Et Paul révèle qu'il y a une lutte ici. Mon esprit, mon cœur aime, approuve la volonté de Dieu, mais il y a cette force en moi qui me pousse vers le contraire. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et oui, Paul a bien compris, cette lutte qu'il y a en moi ne se terminera que lorsque mon corps sera renouvelé, mon corps sera transformé, mon corps sera délivré de tout péché. Non pas que je serai délivré de mon corps, mais que mon corps sera délivré du péché. À la résurrection, pour certains, au retour du Christ, pour ceux qui auront la joie de le voir de leurs yeux. Mais alors, la venue du Christ et la délivrance qu'il opère à la croix ne change-t-elle rien à ma condition ? Si lorsque je ne suis pas au Seigneur, je suis esclave du péché, et lorsque je suis au Seigneur, je suis esclave du péché encore, de quoi suis-je délivré ? Plusieurs choses. Plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que, frères et sœurs, votre lutte durera jusqu'au bout. Votre lutte durera jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment dans votre vie où vous en aurez fini avec le péché. Ah, ça y est, je suis parvenu en haut. Maintenant, c'est fini, je ne pêche plus. Jamais. Ici-bas. Nous sommes en lutte et nous devons lutter quotidiennement, chaque jour, à chaque heure. Mais, sans l'Esprit de Dieu, cette lutte entre le bien et le mal en vous, entre la volonté de Dieu et le péché en vous, n'avait qu'une seule issue. C'était la mort. Maintenant que vous êtes en Christ, cette lutte entre la volonté de Dieu et le péché n'a qu'une seule issue, c'est la résurrection. J'étais engagé avant de connaître le Christ dans un combat que je ne pouvais pas gagner. Dès lors que le Christ est venu et m'a scellé de son esprit, je suis engagé dans un combat que je ne peux pas perdre. Mais j'ai un combat à mener. Lorsque Paul évoque son passé, cette loi à laquelle il était soumis le transformait en un monstre, un persécuteur, un tortionnaire. Pas juste un brave soldat obéissant, quelqu'un de zélé pour aller choper les chrétiens là où ils se cachaient, les arracher à leur famille, les jeter en prison, voire pire, les tuer. Quelqu'un de zélé pour cela. Comment est-ce qu'on qualifierait un religieux zélé pour tuer au nom de son Dieu ? Un intégriste ? Un terroriste ? Voilà le genre de fruit que produisait la loi en Paul. Parce que exactement, vous voyez la parabole du fils prodigue, un père qui a deux fils, il y en a un qui dit « Papa, je me barre, donne-moi mon héritage », il part dans un pays loin loin et il dilapide tout. Et l'autre qui reste sagement à la maison. Et puis quand le deuxième fils revient là, après avoir claqué tout l'argent, et qui revient tout repentant en disant « Je ne suis pas digne d'être ton fils, reprends-moi comme un esclave, comme un serviteur dans ta maison. » Le père a dit « Non, je te reprends comme un fils. » Et il le reprend, et il le relève, et il le réintègre à sa maisonnée. Et le frère aîné qui était là a dit « Mais bon, moi j'ai toujours tout bien fait et tu ne m'as jamais récompensé. » On découvre en étudiant cette parabole que tant le fils cadet que le fils aîné n'aimaient pas le père. Il voulait obtenir du père. L'un, quelque part, par son indépendance, et l'autre, en faisant tellement bien que le père allait forcément être en dette vis-à-vis de lui. L'un correspond à la rébellion contre Dieu, et l'autre correspond à la religiosité vis-à-vis de Dieu. Je vais tellement appliquer les règles que Dieu sera en dette vis-à-vis de moi, et c'est lui qui va me devoir, et il répondra à mes prières, et il me donnera ceci, et il me donnera cela, parce que j'aurai fait. Les deux sont des fausses relations à Dieu, ou des mauvaises relations à Dieu. La rébellion, parce que forcément on cherche à le fuir. La religiosité, parce qu'on cherche à le marchander. Et ni dans l'une, ni dans l'autre, ne se trouve la moindre trace d'amour. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en vous, donc je dis la première chose, c'est que vous passez d'une guerre que vous ne pouvez pas gagner à une guerre que vous ne pouvez pas perdre, parce que Christ a gagné pour vous. La deuxième chose, en fait, quand l'Esprit de Dieu vient en vous, cette loi que mécaniquement notre nature pécheresse va instrumentaliser, cette loi, eh bien, elle est gravée dans nos cœurs et nous y prenons goût. Nous y prenons goût. Nous aimons la volonté de Dieu. Paul le dit. Il dit, attendez, je retrouve le passage. La volonté de faire le bien existe en moi, et je reconnais que la loi est bonne, et ce à quoi je prends plaisir, je ne peux pas le faire. Donc cette volonté de Dieu, ce désir de servir Dieu, non pas pour obtenir quelque chose par le mérite, mais par amour, existe bien en lui. Ça, c'est le fruit de l'Esprit qui vient en nous. Cette façon de comprendre la grâce, de s'en réjouir, de s'en émerveiller, c'est le fruit de l'Esprit qui vit en nous. Et du coup, la loi devient une source de réjouissance, de plaisir, d'espérance. Là où avant, elle n'est qu'une façon de trouver une manière de gagner par soi-même, Parce que celui qui part rebelle, loin de Dieu, cherche à gagner par soi-même. Celui qui va instrumentaliser la loi de Dieu pour gagner le plus de points de mérite, cherche aussi à gagner par soi-même. Et celui qui rentre dans une véritable relation d'amour avec Dieu et se laisse aimer de Dieu et se met à lui-même aimer Dieu, lui n'est plus en train de chercher à gagner par lui-même, et bien se laisser délivrer et sauver par Dieu. Premier point, vous passez d'un combat que vous ne pouvez pas gagner à un combat que vous ne pouvez pas perdre. Deuxième point, la loi de Dieu est gravée en vous et vous allez apprendre, vous commencez déjà à l'aimer vraiment. À l'aimer vraiment. Et le troisième point que je veux vous dire, qui n'est pas forcément développé ici par Paul, mais que je vous transmets vraiment pastoralement, la vie chrétienne, c'est pas faire trois pas en avant, puis trois pas en arrière, puis deux pas en avant, puis deux pas en arrière. Vous ne stagnez pas. Vous ne faites que croître. Croître en compréhension et en sanctification et en sagesse et en maturité dans tous les domaines de votre vie si vous marchez avec le Christ. Alors pourquoi Paul dit-il « malheureux que je suis » ? Parce qu'en termes de maturité spirituelle, il doit se poser là quand même le coco. Pourquoi dit-il « malheureux que je suis » ? Parce que le revers de la médaille, c'est que plus vous comprenez l'amour de Dieu et sa sainteté et sa justice, plus vous détestez votre péché, et plus vous en prenez conscience aussi. En discutant avec des nouveaux convertis qui débarquaient dans notre communauté, c'était touchant de voir comment ils racontaient l'impression qu'ils avaient de nous. Ils disaient « Ah, mais vous êtes parfait. Quand je vois ma vie et que je vous vois vous, je me dis « Mais oh, jamais je serai à votre niveau. » Et pourtant, comment ça se fait que les vieux routards de la foi, qui cheminent avec le Christ depuis tant d'années, diront eux aussi « Mais je suis le premier des pécheurs. » Pourquoi ? Parce que plus je marche avec le Seigneur, plus je deviens sensible à sa justice. Mais si je deviens sensible à sa justice, je deviens d'autant plus sensible au péché. Et peut-être qu'au début de ma vie chrétienne, bon, le péché, c'est voler, regarder de la pornographie ou taper quelqu'un ou mentir. Mais après 30 ans passés avec le Seigneur, une simple pensée orgueilleuse où je me place tellement au-dessus de quelqu'un me rend complètement honteux devant le Christ. Et alors on n'échappe pas. On n'échappe pas à sa nature pécheresse. Parce que plus je suis élevé et instruit et rendu mature par l'Esprit Saint qui est en moi, plus je vais voir dans les nuances, dans les détails, le péché, et plus je serai humilié devant le Seigneur. Donc il y a une progression, et c'est mon troisième point, il y a une progression. Nous cheminons, nous grandissons, nous apprenons, nous réussissons. Et comme le dit l'Ecclésiaste, plus de connaissances accroît la souffrance. Et plus je me sanctifie, plus je suis incompatible avec ce monde. Et plus j'espère voir le règne des cieux arriver et tout transformer. Je veux maintenant vous encourager . On ne résiste pas au péché qu'à la force de son esprit, en se gargarisant de « Seigneur, cette fois, je vais faire ça pour toi » et de se le répéter 1000 fois. Un dicton dit « Un clou en chasse un autre ». Vous connaissez ça? Dans toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances, ces choses dans lesquelles nous retombons si souvent, on a tous ça. On est tous en guerre contre le péché dans nos vies. Il faut arrêter de se voiler la face et reconnaître une chose simple et évidente. On choisit toujours ce qu'on veut faire. On choisit toujours ce qu'on veut faire. Et quand on pêche, on choisit de pêcher. Parce que sur le moment, c'est ce qu'on préfère. Comment arrêter de préférer cela? C'est en préférant quelque chose d'autre, encore plus. Comment arrêter d'aimer cela? C'est en aimant quelque chose d'autre, encore plus. Et ce que les Écritures nous encouragent à faire, le Nouveau Testament, c'est de cultiver en nous un amour pour Jésus-Christ. Cultiver en nous un amour pour Jésus-Christ. Dans notre société d'Occident, ce n'est pas facile de nous dire « Allez, tu dois choisir d'aimer ceci ou tu dois choisir d'aimer telle personne. » Parce que pour nous, l'amour, dans tous nos romans, dans tous nos films, dans toutes nos séries, nos fictions, l'amour est un sentiment qui nous submerge, qui nous choisit, qui nous saisit. Mais certainement pas un sentiment que nous choisissons. L'amour n'est pas une décision pour nous en Occident. Mais dans les Écritures, aimer, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Et nous sommes appelés à choisir d'aimer Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que lui vous aime déjà en retour. C'est que lui a déjà tout accompli pour vous rencontrer. Et pour se réconcilier avec vous. Et comme le père de la parabole du fils prodigue, il est toujours à la porte de sa maison à guetter le bout du chemin. Choisissons d'aimer le Christ, et de voir comment est-ce qu'il va répondre à ces petits pas peut-être que nous ferons vers lui dans tel et tel domaine de notre vie. Ici, Seigneur, je veux apprendre à t'aimer plus que cette sale manière que j'ai de répondre toujours dans telle situation. Seigneur, je veux t'aimer plus ici, dans ce domaine de ma vie où je suis tout le temps conduit par la peur et que je me laisse avoir. Je veux t'aimer plus, montre-moi, apprends-moi, conduis-moi. Viens me chercher. Et vous aurez des victoires, des succès. Mais la victoire, elle vient de lui et de lui seul. Il a déjà signé l'arrêt de mort du péché. Nous attendons son retour triomphal où nous serons délivrés pour toujours de cette lutte, de ce combat qui nous divise et qui fait rage en nous. Alors, frères et sœurs, soyez persévérants, soyez patients. Et lorsque vous êtes écrasés par votre péché, je vous dis cette chose. Si vous n'aviez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'auriez pas honte de votre péché. Et le simple fait que vous soyez écrasés par ce péché, c'est la preuve que la conscience, que la présence de l'Esprit vous parle encore à ce moment-là. Dieu vous aime et celui qui est fidèle à nous restera fidèle quand bien même nous serons infidèles. Amen.